France Culture. Fanfare, une histoire en marche. Ah, les fanfares! Quelle belle occasion de célébrer le bonheur d'être ensemble, de se donner du cœur à l'ouvrage, de faire corps, de parader avec tambours et trompettes. Festives, ces fanfares ont aussi un rôle d'émancipation, une dimension sociale et éducative, voire même politique. Longtemps jugées ringardes ou guindées, les voilà revigorées et dépoussiérées. Elles ont le vent en poupe. Épisode 1, sonner trompette. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Benjamin Hu.
Il est 6h50 du matin et c'est l'heure du réveil au quartier des Célestins, à Paris.
Oui, c'est ça, 6h50, début de la journée, puis après l'étendard, 7h, et ensuite aux écuries pour faire le paillage des litières et commencer le pansage des chevaux. Et ensuite viendra l'exercice à cheval en musique.
Alors, ici, on se trouve dans le réfectoire nord-ouest, dite salle François Ier, et on voit, au premier plan, à gauche, très bien représentées, deux trompettes qui portent un chapeau empanaché, un juste corps rouge. Et ce qui est manifeste sur cette peinture, c'est que seules les trompettes, avec leur puissance et leur flamme de trompette en dessous, peuvent surmonter le bruit de la bataille et la fumée de la poudre.
Il fallait pouvoir conduire son cheval de la main gauche et tenir la trompette de la main droite et jouer tous les airs. Donc, rendez-vous compte, quand on est en pleine charge, au galop, il faut tenir son cheval et puis en même temps sonner la charge pour le trompette.
Les batteries sont transmises à l'imitation à l'époque. Ils ne savent ni lire ni écrire, il faut bien voir ça. On l'apprend d'oreille avec des onomatopées. Des rats, des flats, des rapataflas. Et le tambour-major, c'est lui qui organise les signaux dans son unité.
Depuis l'Antiquité, les musiques militaires accompagnent les soldats dans les défilés, mais aussi sur les champs de bataille. Liées à la vie des armées, elles rythment les grands événements et galvanisent les troupes. Chaque corps d'armée possède son propre répertoire et ses musiciens. Sur les terrains de chasse, les fanfarons en petite formation ne jouent plus, mais sonnent à cors et à cris pour alerter les camarades dans leur course au gibier. La fanfare devient alors un langage. Mais pour l'heure, assez causé. Revenons à nos clairons.
On est à Paris, près d'un an après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui s'est tenue le 26 juillet 2024. Et on est sur le Pont des Arts, entre le 1er et le 6e arrondissement. D'un côté, le Louvre, et de l'autre, commandant Foulquier.
L'Institut de France.
L'Institut de France.
Et la coupole, la fameuse coupole de l'Académie française, sous laquelle se réunissent les immortels.
Vous vous souvenez de ce fameux jour, de cette rencontre un peu comme ça, inédite, entre d'un côté Aya Nakamura et la musique de la garde républicaine? C'est vous qui étiez aux commandes ce jour-là.
Oui, c'est moi qui avais cet honneur-là et ce privilège.
Qu'est-ce que ça représentait symboliquement pour vous, la rencontre de ces deux univers qu'on pourrait imaginer diamétralement opposés?
C'était en tout cas symboliquement l'effet recherché par les organisateurs, tel que cela nous avait été présenté lorsque j'ai appris notre participation à cet événement, au travers de ce tableau égalité. Chaque tableau avait un nom, chacun de ces tableaux se déroulait sur un des ponts parisiens. Et oui, cette symbolique entre deux univers, alors la garde républicaine, côté académique, dans la tradition, dans la culture, dans la langue, ce que ma formation, la musique arrière devait symboliser, et puis d'un autre côté, une langue plus de la rue, celle écoutée par les jeunes, celle parlée par les jeunes, voilà, partout sur le territoire. La langue chantée, fut-elle argotique, hein, par une artiste effectivement française, connue, en tout cas la plus connue, c'est comme ça qu'on nous l'a présentée la première fois, sans nous dévoiler son identité, au monde. On est resté un peu dans l'incertitude de quelques mois, quelques semaines, jusqu'à recevoir la partition qui nous a permis de découvrir que voilà, c'était bien Ayana Kamura dont il s'agissait, puisqu'on pouvait reconnaître de ces tubes. Alors, la symbolique de ces deux mondes qui évoluaient, chacun partant d'un côté de ce pont, et qui se retrouvaient au milieu de celui-ci, pour finalement fusionner au travers de la musique, d'un art qui, somme toute, est là pour réunir plutôt que diviser, et qui voulait démontrer par là que ben, le vivre ensemble, le mélange des genres était possible, et que la garde, finalement, oui, ouais, bien que formation militaire, certes, peut-être un peu guindée, certaines rigidités, appartenait finalement à la pop culture, et appartenait à la société, appartenait au monde dans lequel elle évolue, elle vit, et pouvait se marier à tous les styles, tous les genres, de manière naturelle et finalement très ouverte.
Aujourd'hui, commandant Frédéric Foulquier, il fait plutôt beau, mais le jour J, il pleuvait.
Oui, quand on m'a demandé si j'étais en capacité de maintenir notre prestation, malgré la pluie, bon, j'ai confirmé que oui, pas de problème. Je pense qu'ils ont été soulagés que ce tableau puisse être maintenu. Bon, on a l'habitude, hein. C'est vrai que le gros de notre activité est tourné vers le protocole, le cérémonial militaire et donc des événements qui ont lieu en plein air. Et donc, on est régulièrement confronté aux intempéries et aux aléas climatiques. Mais bon, pour nous, de ce point de vue, le réchauffement climatique peut avoir, pour les musiciens, du bon. Enfin, quand, alors, ceci dit, lorsqu'il fait très chaud, notre tenue n'est pas adaptée véritablement. Et peut-être qu'un jour, il faudra que nos chefs revoient si les choses évoluent comme on a l'air de le dire. Voilà, revoient notre uniforme qui n'est vraiment pas adapté non plus aux fortes chaleurs.
Uniforme qui n'a pas beaucoup changé depuis son origine.
Non, depuis le début de la Troisième République, hein, à quelques détails près, l'uniforme est le même avec une tunique. Hein, la veste s'appelle une tunique avec un col officier sur lequel... Alors nous, elle porte un galonnage particulier propre aux musiciens. Donc les grenades, symbole de l'infanterie, sont remplacées par les lyres, hein, propres aux musiciens, avec quelques galons aussi supplémentaires sur le tour du col officier et aux manches. À la coiffe aussi, on a une coiffe. Un shako surmonté d'un plumet qui, là aussi pour les musiciens, est pour un tiers à la base écarlate et deux tiers blanc, alors que pour le reste de l'infanterie, il est entièrement écarlate, rouge. Et puis un pantalon bleu nuit, hein, voilà, avec des bottines. Hein. Ce ne sont pas des chaussures basses, ce sont des bottines propres à l'infanterie de la garde républicaine. Un ceinturon, évidemment, piqué de rouge avec les têtes de dragonne, une giberne dans laquelle ils peuvent glisser l'ensemble des carnets donc, qui contiennent le répertoire militaire, hein, pour tout ce qui est service en plein air, cérémonie et autres, debout donc en plein air.
Au moment où nos colonnes se mirent en mouvement, où le brouillard de novembre commençant à se dissiper découvrit l'armée française, un grand concert d'instruments se fit entendre. Une musique grave, imposante, remplit la vallée, monta aux collines. Une harmonie majestueuse semblait marcher devant la France. Les musiques de nos brigades partout, au même signal, ouvrirent la bataille par la Marseillaise.
Jules Michelet. Si on devait remonter aux origines de la musique, ce qui s'appelle aujourd'hui la musique de la garde républicaine, ça remonte à quand ?
Alors, notre histoire est un peu compliquée, puisque la musique au préalable était une batterie fanfare, qui elle-même remonte aux créations de la garde républicaine en elle-même, hein, qui auparavant était la garde municipale de Paris, qui a été créée en 1802 par le consul Bonaparte. Garde municipale de Paris, qui était un peu créée sur le modèle du guet royal sous l'Ancien Régime, et qui avait pour vocation donc d'assurer la sécurité des Parisiens, des institutions aussi, et qui avait une fonction aussi protocolaire dès l'origine. Mais bon, c'était surtout une police parisienne, si je puis dire. Alors, la garde municipale, dès sa création, a été constituée de régiments d'infanterie dans lesquels il y avait la présence de tambours. Il y en avait 6 ou 3 par régiment, chacun placé sous un tambour major différent, auquel pouvaient s'agréger des musiciens recrutés de manière ponctuelle, des musiciens gagistes, clarinettistes, bassonistes, cornistes, voilà, pour agrémenter certaines parades, certaines cérémonies protocolaires pures, quoi. Donc la garde municipale de Paris a évolué au gré des révolutions du 19e siècle pour devenir définitivement garde républicaine, donc au lendemain de Sedan, au début de la 3e République, une garde républicaine au sein de laquelle se sont développées des formations musicales, hein, tout au long de l'histoire jusqu'à nos jours, que ce soit l'orchestre, la batterie fanfare, le chœur de l'armée française, la fanfare de cavalerie, toutes ces formations ont évolué au gré de l'histoire.
Lequester et Thierry Bouzard, alors on est ici réunis dans un des deux cabinets insolites du musée de l'armée aux Invalides, dans une petite pièce qui doit faire, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de mètres carrés, où il y a plein d'instruments anciens. Et j'aimerais bien, Guillaume Lequester, qu'on s'arrête pour commencer sur cette toile derrière la vitrine.
Oui, en effet, on se trouve devant un magnifique tableau d'Édouard de Taille, qui est un peintre assez illustre de peinture militaire.
Guillaume Lequester, conservateur du patrimoine au musée de l'armée des Invalides à Paris.
Alors, la peinture représente le soir d'Iéna, le 14 octobre 1806, où la victoire est à nous. Au centre du tableau, on voit l'empereur Napoléon Ier, qui est représenté suivi de ses généraux et officiers d'ordonnance. À l'avant, on aperçoit l'escorte de chasseurs à cheval de la garde impériale. Et surtout, au premier plan, on observe l'ensemble des musiciens qui constituent la tête de colonne, donc soit une batterie de tambour avec tambour major et tambour maître, et la musique d'harmonie de ce régiment d'infanterie. Donc on voit bien dans ce tableau la place importante au moment des cérémonies qu'occupent les musiciens militaires.
Là, vous le voyez sur le tableau, vous avez les tambours qui sont au premier plan parce que c'est encore des instruments de transmission d'ordre et qui font partie aussi de l'orchestre.
Thierry Bouzard, historien des musiques et chants militaires.
Mais l'orchestre, il est un petit peu derrière, on le voit moins parce que c'est moins important. Et vous avez le tambour major. Le tambour major, il a une grande canne. Pourquoi il a une canne? Déjà, c'est pour qu'on la voit. Et puis aussi, on dit que le tambour qui battait pas correctement, il mettait des coups de canne. Alors, il devait pas taper non plus trop fort. Parce que les batteries sont transmises à l'imitation à l'époque. Ils savent ni lire ni écrire. Et donc, on l'apprend d'oreille avec des onomatopées. Des rats, des flats, des rats pataflats, des rats pataflants, des rats de deux, des rats de trois. Des termes mnémotechniques utilisés que par eux, les autres ils comprennent pas. Et le tambour major, c'est lui qui réglemente, qui organise les signaux dans son unité.
Et une batterie de tambour, c'est quoi, Thierry Bouzard?
Alors, les batteries de tambour, en fait, ce sont les différents roulements, les différents signaux. Il faut bien prendre en compte que la musique d'ordonnance, c'est un ensemble de signaux, d'abord. Ce sont des signaux qui servent à transmettre des ordres. Donc, le côté musical n'a absolument aucune importance. On peut écrire sur des partitions, ça c'est sûr, mais en fait, la partition, c'est juste pour se souvenir. L'important, c'est l'ordre qui est transmis. On n'est pas là dans la distraction, on n'est pas là dans la festivité, on est là dans l'opérationnel, l'efficacité. Voilà.
Quel type d'ordre?
Eh ben, ta 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 ta, ça c'est le réveil, ça, au clairon. Parce que faut que tout le monde se réveille en même temps, parce que des fois il y en a qui sont couchés plus tard et tout ce qu'on veut. Mais on se réveille et puis rassemblement, donc on compte les hommes et puis ensuite on va donner les ordres. Bon bah on va partir, donc en avant, plus vite, moins vite, à gauche, à droite, etc. Et donc les mêmes signaux, les mêmes roulements servent aussi bien au camp que au quartier, que au cérémonial, que au combat.
Thierry Bouzard, la musique militaire, elle a donc pour fonction notamment de passer des ordres, hein, c'est ce qu'on appelle la cellostique, mais elle a aussi pour fonction de donner du cœur à l'ouvrage sur les champs de bataille.
Alors, les musiciens, sous l'Empire, mais après aussi, ils étaient surnommés « loin des balles ». Non pas que c'était des froussards ou quoi que ce soit, c'était pas la question. C'était que c'était pas leur boulot. Il faut une dizaine d'années pour former un musicien, Et donc, c'est précieux. Et en plus, il faut qu'ils s'entraînent entre eux pour pouvoir jouer correctement. Et donc, ça sert à rien de les mettre au milieu du champ de bataille. De toute façon, on n'entendrait rien parce que tout le monde tire, il y a du bruit. La musique ne fait plus sa fonction, quoi. Et donc, les musiciens, c'est avant ou après, mais pas pendant. Pendant, ce sont juste les instrumentistes d'ordonnance, c'est ceux qui donnent les ordres. Alors, c'est aussi très important, par exemple, le tambour, c'est lui qui bat la charge. Et il y a des exemples sous le Premier Empire, où le commandant de compagnie, en avant, chargé, et les gars, ils partent, et puis tout d'un coup, boum, tout le monde s'arrête. Et là, pourquoi ils sont arrêtés? Parce que les tambours ont été tués par la mitraille, et les soldats, par acte réflexe, ils entendent le tambour, ils chargent, ils entendent plus le tambour, ils s'arrêtent. Ils sont bloqués psychiquement, non pas qu'ils veulent plus charger, mais que l'effet psychique de la batterie de tambour n'est plus là, ne fonctionne plus.
Il y a un effet galvanisant,
c'est ça, c'est ça. Et on voit bien l'importance psychique de ces signaux. Mais c'est pareil, après, ça va être le clairon, la trompette, ça fonctionne de la même façon.
Et ça, Thierry Bouzard, ça perdure jusqu'à aujourd'hui ?
Ces instruments sonores ne sont plus utilisés au combat. Vous les trouvez encore dans le cérémonial. Donc ça, vous avez encore des tambours et des clairons, des trompettes. Vous les trouvez dans la marine, sur les navires, avec le sifflet. Et vous les trouvez un peu en garnison encore, certains l'ont encore conservé pour les traditions, mais évidemment plus au combat.
Où est-ce qu'on se trouve, la lieutenant Sauret ?
En plein cœur de Paris, Bastille, au quartier des Célestins, et sur la cour d'honneur du quartier des Célestins.
Lieutenant Laurent Sauret, trompette-major de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine.
Donc c'est la cour où se passent toutes les cérémonies, départ du 14 juillet, 8 mai, 11 novembre, toutes les grandes escortes parisiennes. C'est ici qu'on fait toutes les cérémonies.
Il y a un petit parfum de campagne à Paris, là, je vois qu'il y a un tracteur avec du foin derrière nous.
Bah oui, évidemment, qui dit chevaux, dit paille, dit foin, voilà. Alors, c'est un quartier qui est particulier parce qu'on est entouré de grands bâtiments qui font 4 étages, voilà, qui coupent un petit peu le son, qui donnent quand même un caractère tout à fait authentique à ce quartier. En cavalerie, on parle de quartier, en infanterie, on parle de caserne. Voilà, ces petites subtilités de langage.
C'est ici que vivent tous les musiciens de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ?
Alors une bonne partie, en effet. Une bonne partie habite ici, l'autre partie habite dans une autre résidence qui est sur les quais de Seine. En règle générale, pour un gendarme, puisque nous sommes gendarmes, c'est d'habiter le plus proche possible de son lieu d'emploi, ce qui est le cas pour nous. Surtout quand on est de permanence Élysée, puisque bah, en fait, sous un délai très très court qui peut tomber à une heure, il faut pouvoir être en tenue et se rendre à l'Élysée.
Voilà. On avance un peu ?
On avance.
Au trot ou au galop ?
Écoutez, je suis votre allure. Je conseille qu'on commence par le pas peut-être.
Allez. Ça y est, il y a tous les musiciens de la fanfare de cavalerie qui sont en place, avec leurs instruments en main. C'est le début de la répétition ?
C'est le début de la répétition. Voilà, ils jouent le cocardier.
La particularité, lieutenant Sauret, de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine ?
Sa particularité, c'est que c'est la dernière. C'est la dernière, ça a été une des premières et c'est la dernière. Donc, non seulement nous faisons de la musique sur des chevaux, mais en plus, on fait ça en mouvement, c'est-à-dire au pas, au trot et au galop pour les trompettes. Et on joue sur des instruments d'ordonnance. Alors, un instrument d'ordonnance, c'est quoi ? C'est un instrument naturel qui n'a pas de piston ni de système pour faire les notes. Donc, c'est un simple tuyau enroulé sur lui-même. Et bah, en fait, c'est aux musiciens de tout faire avec la pression des lèvres et de l'air. Donc le trompette avait pour fonction, dans son escadron, de donner les ordres du quotidien, les ordres pendant la bataille, des ordres de mouvement à gauche, à droite, au pas, au trot, au galop, etc.
Comment elle se compose, cette fanfare de garde-cavalerie de la garde républicaine ?
Alors elle se compose de timbales. Donc à l'avant, à cheval, vous avez deux timbaliers. Vous avez ensuite des trompettes, des cors, donc trompette corps, trompette basse et des hélicons à cheval. Les timbaliers sont remontés en chevaux gris, ce sont des percherons, donc des chevaux de trait qui sont capables de porter un peu plus de poids puisque le poids des timbales oscille entre 15-18 kg en plus du poids du cavalier et de son harnachement. Pour les autres chevaux, on va être sur des robes alezane, c'est-à-dire une couleur roux, hein, les crins et la robe sont de même couleur.
Lieutenant Sauret, j'ai remarqué que vous n'aviez pas tout à fait la même trompette que vos confrères trompettistes au sein de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine.
Ouais, c'est vrai, c'est pas que pour faire joli et pour se différencier des autres, c'est surtout pour qu'elle soit visible quand on fait les gestes, puisque vous imaginez, la fanfare, elle est sur 5 rangs, on est 28, donc moi je suis tout devant, les gens qui sont tout derrière doivent bien voir les gestes pour emboucher, etc. Donc cette trompette est argentée, donc on la lève très très haut comme ça, on fait un grand geste lentement pour faire démarrer les gens et pour faire lever. Et puis, vous savez, nous, on aime bien avoir des petites choses qui distinguent un peu les fonctions dans l'armée. Donc ça en fait partie, comme la canne du tambour-major fait partie de ses fonctions.
Donc la vôtre, elle est argentée et celle des collègues, elle est dorée.
Alors, elle est vernie. Hein, c'est du laiton qui est simplement verni. Voilà, elle n'est pas dorée. On n'a pas les moyens encore d'arriver à ce niveau-là.
C'est le trompette-major là qui est en tête, celui qui vous remplace aujourd'hui.
C'est le trompette-major adjoint qui dirige avec sa trompette tous les mouvements pour emboucher, pour commencer, pour donner le tempo sont faits à la trompette. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça un trompette-major. Donc à l'origine, le terme c'est trompette-maître qui n'avait pas les trompettistes, les musiciens directement constitués en unité. Ils étaient répartis dans les escadrons, 2, 3 ou 4 par escadron. Et ils les réunissaient de temps en temps pour faire des répétitions. Donc aujourd'hui, moi j'ai un énorme privilège, c'est que ces musiciens sont entièrement à ma charge et donc je peux faire des répétitions autant que je veux, comme je veux, sans devoir négocier avec les escadrons dans lesquels ils seraient affectés.
Et ce sont avant tout des musiciens avant d'être des gendarmes ?
Oui. Pour faire un musicien, il faut un minimum de 15 ans d'études. Donc il faut commencer très tôt, très jeune. Donc on recrute depuis le secteur civil des musiciens auxquels on fait passer une audition, un entretien, et ensuite ils vont passer leur concours de gendarmerie pour revenir chez nous après une formation équestre. On ne cherche pas des cavaliers, ce qui peut être paradoxal, mais on arrive à former un cavalier en 5 à 6 mois plus facilement qu'un musicien en 5 à 6 mois.
Et chaque cheval est attribué à un musicien cavalier ? C'est-à-dire qu'ils ont toujours le même ?
Alors on essaie, dans la mesure du possible, de former un couple cavalier-cheval pour plusieurs raisons. Déjà pour le bien-être des deux. Parce qu'un cheval, c'est un être vivant, évidemment. Et il faut bien le connaître, ça a son caractère, ça a ses habitudes, ses petites subtilités. Donc le fait d'avoir régulièrement le même cavalier avec lui, déjà ça met le cheval en confiance dans l'exercice.
Là, on accélère l'allure.
Voilà, on accélère l'allure. Là, on va voir comment se comportent les chevaux à laisser sur un trot. Donc, ils vont jouer un trot d'escorte, évidemment. Donc là, c'est l'exercice un petit peu plus délicat. Tant qu'on est au pas, on arrive à gérer un petit peu plus facilement, on va dire. Au trot, le cheval peut avoir un comportement tout à fait différent. Donc, il est très, très important de vérifier son aptitude à jouer dessus au trot.
Ça ne doit pas être évident de ne pas faire des canards quand on est au trot, non ?
Alors, c'est pas évident de ne pas faire des canards, c'est pas évident de rester aligné dans la largeur, dans la longueur, c'est pas évident de rester au trot. Parfois, les chevaux prennent le galop, parce que c'est plus facile pour eux suivant la vitesse du trot. Donc, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Gérer ses respirations, puisque quand on est au trot, on se lève une fois sur deux, et en même temps, donc il faut la respiration pour l'exercice physique et la respiration pour l'exercice instrumental. tout ça sans avoir la tête qui tourne. Donc c'est un métier qui est très complexe. Il faut minimum 2 à 3 ans de pratique avant de commencer à envisager, de se sentir à l'aise et pouvoir évoluer un peu plus avant dans l'unité, dans la fanfare. La fanfare est au trou, on regarde déjà comment se comportent les chevaux à l'essai sans jouer. Toute évidence, tout va bien. Et ensuite, l'adjudant chef Julien va lever la trompette pour faire lever les musiciens, embouchés, puis faire partir le trot. Donc là, il est en train de caler son allure, il regarde comment ça se passe. Après, il lève la trompette, il le fait emboucher, et il va donner le départ. 1, 2...
C'est la fin ?
Alors c'est la fin. Donc là, on reconstitue l'unité en statique. Souvent, on rejoue une pièce pour vérifier que les chevaux vont bien accepter le statique. Parce que c'est pas forcément la phase en dynamique qui est la plus compliquée. Souvent, c'est la phase de statique pour que les chevaux acceptent d'attendre 15, 20, 30, 40 minutes en statique, sans bouger, sans sortir, etc., sans s'embêter les uns les autres. Donc c'est un exercice qu'il faut répéter régulièrement. Et comme on peut voir là, ça se passe très très bien.
Retour au musée de l'armée, aux Invalides.
Derrière nous, on a des instruments qui datent du début 19e, notamment un qu'on appelle le serpent, c'est ça, en forme de serpent, de fait.
C'est un instrument qui est créé pour l'église, parce que toutes les églises n'avaient pas les moyens de s'offrir un orgue, ça coûte très cher, et donc, pour pallier... Un chanoine avait inventé cet instrument pour accompagner le chant.
Thierry Bouzard.
Et on s'est rendu compte que c'était un instrument portatif qu'on pouvait utiliser en extérieur. Et donc, ça irait bien accompagner, renforcer les formations militaires, tout simplement, quoi, d'un aspect pratique. Quoi.
Donc là, il y a le serpent forvet, il y a des ophicléides aussi.
Il y a des instruments très... différents, complètement disparus aujourd'hui, et qui sont les tentatives de l'époque pour essayer de faire des sons, de pouvoir jouer de la musique en marchant et avoir des puissances équilibrées, c'est-à-dire qu'on entende aussi bien les aigus que les basses en extérieur. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, il faut des expérimentations qui vont prendre des décennies et des décennies.
Jusqu'à ce qu'un facteur belge génial inventeur, Adolphe Saxe, transforme ses instruments et puis finalement fasse en sorte qu'ils soient adoptés par le monde militaire.
C'est ça.
Autour du milieu du 19e, 1845.
Saxe est vraiment le génie pour toute la gamme sonore. Et c'est ça le truc de Saxe. Et donc il conçoit des instruments qui fonctionnent entre eux.
À ce titre, Philippe Gimplowicz, on pourrait s'arrêter sur l'apport d'Adolphe Saxe, qui va comme ça apporter toute une famille d'instruments, et notamment les saxophones qui viennent de son nom.
Il représente une révolution parce que d'abord, il invente un instrument qui est capable de couvrir toute la tessiture musicale, du plus grave au plus aigu.
Philippe Gimplowicz, musicologue et historien de la musique.
Alors aujourd'hui, le saxophone basse n'existe plus, mais du saxophone baryton au saxophone soprano ou sopranino, tous les instruments ont un même doigté. C'est-à-dire, vous pouvez passer du saxophone baryton au saxophone soprano sans difficulté. En plus, il a une idée de génie, c'est que les pavillons de tous ces instruments vont dans le même sens. Ce qui n'était pas le cas des autres instruments avant, qui précédaient, les serpents, les apicléides, qui, ça tournait. Là, les saxophones, c'est pampant devant, quoi. Ça va tout droit. Ça rend les choses plus commodes. En plus, il a le don de la publicité. Il a un don commercial aussi qui l'amène à obtenir un contrat d'importance avec le ministère des Armées. Donc des instruments produits usinés, des instruments produits en masse qui ont été moins chers, accessibles à tous. C'est du cuivre, quoi, voilà. C'est du cuivre et des clés et du bois.
Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pente à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs, les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames auprès desquelles vont officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame.
Extrait du poème « À la musique » d'Arthur Rimbaud.
Le trombone de cavalerie qui fait partie aussi des inventions d'Adolphe Sax et qui date de 1866.
Guillaume Le Quester.
Et en fait, c'est un trombone assez particulier parce qu'il est constitué d'un tube en équerre. Le trombone à coulisse a une coulisse extrêmement longue et correspond assez peu à l'attitude d'un cavalier. Et donc là, en ayant construit le tube en équerre avec trois pistons de chaque côté, ce qui lui permet en fait de jouer toutes les notes de la gamme, le cavalier peut l'avoir près du corps.
Il faut bien voir une chose, c'est qu'à l'époque, c'est milieu du 19e, toutes les armées européennes sont confrontées à la même problématique. C'est-à-dire que pourquoi on confie à l'armée une mission culturelle? Parce que ça, c'est quand même incroyable. C'est pas son boulot. Le boulot de l'armée, c'est de faire la guerre, défendre le pays, aller faire des conquêtes, tout ce qu'on veut. Mais pourquoi on leur donne à jouer de la musique? Ça a pas de sens, quoi. Et c'est très compliqué. Intégrer des artistes dans un monde militaire réglementé, c'est insensé, quoi. Mais on a besoin de ça parce que c'est un monde très rationnel. Vous êtes à l'époque où on a besoin de tout organiser, réglementer. Ben, les instruments de musique, c'est pareil, on va standardiser les instruments de musique pour pouvoir rassembler les musiciens ensemble et jouer de la musique pour la population. Établir une communication entre le pouvoir politique et la population. Être agréable et donner des concerts sur les boulevards.
Un village, une sous-préfecture. On a posé les strates sur des tréteaux. Les lampions recouvrent les platanes. La fanfare est prête à défiler. Dans les rangs, on sent une certaine nervosité, mal dissimulée par les plaisanteries rituelles. Les tambours font jouer leurs poignets, attentifs à maintenir leurs baguettes à bonne distance des caisses claires. Le premier clairon est inquiet. Tout à l'heure, c'est lui qui lancera le défilé. Ses lèvres tremblent un peu. Il a déjà un peu bu, histoire de noyer son trac. Tout le monde est là, tout le village. La musique démarre. Les plus fermés, les plus cyniques des spectateurs se sentent gagnés par un sentiment étrange de communion. Ne serait-ce que pour un court moment, sous l'effet de cette grâce infinie et triste, on peut nourrir l'illusion que le mal n'existe pas.
Extrait des travaux d'Orphée de Philippe Gimplovitch.
Dès le 18e, fin du 18e, dès la création des premiers orchestres militaires, dans les villes de garnison, les orchestres jouent pour la population. Ils le font parce qu'ils ont besoin de recruter. à l'époque. Donc il faut que ça soit bien, il faut qu'il soit beau. Et puis, ils donnent des cours de danse dans les régiments à l'époque. Et on joue de la musique. Et à l'époque, jouer de la musique, c'est rare. Parce que vous n'avez pas d'enregistrement. Et donc, quand vous avez de la musique gratuite sur les boulevards, c'est extraordinaire. Sur les places, tout le monde s'agglutine, vient écouter. Même si c'est pas forcément toujours très joli, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout. Sinon, ils vont à l'église entendre l'orgue. Mais la grande musique, elle est donnée dans les salles de concert pour les gens qui ont les moyens. Donc ça reste une minorité, quoi. En dehors de ça, les orchestres militaires ont cette fonction qui crée du lien dans la population.
Ce qu'on peut rigoler par les beaux soirs d'été sous le kiosque à musique. On entend l'orphéon, les tambours, les clairons, la fanfare et la clique. Pas besoin de payer pour entendre aboyer tous les chiens du quartier. Et dans tous les concerts, on joue Mozart ou Wagner, ou sous le kiosque en plein air. Avec un air timide.
On voit bien que, à travers ce qui est relaté dans les gazettes, ça avait une grande importance pour la population.
Le notaire en personne ajuste sans son lorgnon, prend son mégaphone ou son vieux trombone et joue l'air des lampions.
Philippe Gimplovitch, j'ai relevé ces quelques phrases de Jeanne de la Porte, de l'Orphéon, qui dit « Il faut que l'Orphéon vole de clocher en clocher, qu'il s'installe dans les villes et les bourgs, et aussi dans les hameaux les plus reculés. Il faut qu'il obtienne une place dans la colonie agricole et dans l'usine industrielle. Il faut qu'il descende avec nos mineurs dans les entrailles de la terre, qu'il navigue avec nos marins dans les océans, qu'il s'enrôle sous les glorieux drapeaux de nos armées. » La France chorale du 1er août 1862.
Il y a pour moi quelque chose d'épique. Et ce qui est étonnant avec ce mouvement orphéonique, c'est l'imitation de cette musique savante dans les harmonies. C'est cette idée que le peuple a droit, de la même manière qu'il a droit à l'éducation, qu'il a droit à la santé, il a également droit à la musique. Et la musique étant perçue comme quelque chose de quasiment divin, de quelque chose de quasiment magique. Et donc tout ce monde des fanfares, harmonies, est né de cette envie d'entrer dans le temple, dans la maison sacrée de la musique. Et à sa manière, en plus de ça. On est vraiment dans le 19e siècle avec une tonalité extrêmement progressiste et optimiste. Et puis cette phrase qui est toute simple et magnifique, je trouve, « Le soleil brille pour tout le monde ».
Et donc, quand vous regardez bien, c'est ça qui va se passer au 19e. Quand les orchestres vont fonctionner, les chefs de musique militaire sont des grands transcripteurs. Ils composent peu de choses en réalité, mais ils adaptent et ils diffusent les grands morceaux parisiens. Toutes les mélodies qui marchent à Paris, à l'opéra, dans les grandes salles parisiennes, tout de suite sont transcrites et jouées dans les kiosques à musique. Il y a quelque chose qui marche, il y a un chef de musique qui va le reprendre, et ça se diffuse par ruissellement dans les provinces et puis dans tout l'Empire, avec un petit décalage. Et donc, les compositions des grands compositeurs de la capitale, parce qu'on est très centralisé, se diffusent dans tout l'Empire, dans tout le territoire.
Où est-ce qu'on se trouve, là, commandant Frédéric Coulier ?
Eh bien, nous trouvons dans les archives de la musique de la garde républicaine, en tout cas une partie de celle-ci, avec des rayonnages fort garnis d'œuvres et de pièces qui remontent pour la plupart à la Troisième République, à la deuxième partie du XIXe siècle, avec toutes les pièces emblématiques du répertoire militaire tout au long de l'histoire, parmi lesquelles les grandes marches que tout le monde connaît, Rhin et Danube, etc., les marches d'Ancien Régime et aussi d'Empire, et puis aussi des grandes transcriptions, alors ça c'est pour la partie militaire, et puis aussi toutes les grandes transcriptions qui étaient jouées au 19e, 20e siècle, avec des transcriptions de la Symphonie Fantastique, Berlioz, Bizet, Saint-Saëns, voilà, toutes ces pièces, Haïda, Verdi, enfin il y a un peu de tout, tout est là.
Où est-ce qu'on va maintenant ?
Et là nous allons aller dans notre salle de répétition pour effectuer une petite séance en préparation du service à venir pour la visite officielle du roi du Danemark.
Derrière nous, on entend déjà la musique de la garde qui est en train de répéter.
Messieurs, dames, bonjour.
Il fait frais, ce, il me semble, non ?
C'est une impression ou...
Il fait frais. Bon. Ben écoutez, on va commencer par l'hymne danois.
Vous, vous serez vraiment dans la cour de l'Elysée. Hein. C'est les titulaires, hein, pas les remplaçants.
Bon, allons-y, voyons voir cet hymne. Wow.
De t'introduire comme ça des pièces pop ou
Ça a toujours existé. Alors, ça n'a pas toujours été. Il y en a qu'à moi hein, qui était populaire, mais avant, il y en a qu'à moi. Il y a eu la musique de Kios, la musique de la polka, les mazurkas, etc. Au début du XXe siècle, la période de la Belle Époque. Après, ça a été les musiques populaires des grands chanteurs du moment, Traîné, etc. Maurice Chevalier, j'en passe les meilleurs, et comme ça tout au long de l'histoire. Et le programme des formations militaires a toujours été constitué de musique à la fois militaire, évidemment, puisque ce répertoire-là est la base de ces formations, mais aussi du répertoire appartenant à la pop culture, car de tout temps, là, les musiques militaires font partie de la pop culture, et pas seulement, après c'est un plan sociologique aussi, mais c'est des musiques constituées d'instruments à vent, instruments à vent qui par nature sont plus des instruments attachés à la culture populaire que les cordes, plus élitistes, le piano par exemple, plus élitiste. Donc on retrouve ce même type de formation d'ailleurs dans les milieux ouvriers, dans le nord de la France où l'harmonie, les orphéons, les fanfares sont très présents.
Vous croyez que la musique adoucit les mœurs ?
Pour moi, la musique, au-delà d'adoucir les mœurs, je crois que c'est une vraie religion, dans le sens premier du terme, relier les gens. Elle a vraiment cette force de rassembler les gens.
Les orchestres militaires sont créés en 1766, et dans ces orchestres, il y a peu de musiciens. En réalité, au départ, il y en a 8, quoi. Alors 8, ça fait rien, en plein air, on n'entend rien. Mais les chefs de musique qui ont besoin d'obtenir des résultats, puis de plaire à la population, faut recruter et tout, et on va gonfler l'effectif pour avoir un meilleur son. Et ils se cotisent, les officiers se cotisent, et financent des gagistes, c'est-à-dire des musiciens qu'on paye pour un cachet. Et ils viennent pour renforcer les orchestres. Mais non seulement ils renforcent les orchestres, mais aussi, ils font de la formation. C'est-à-dire que les orchestres militaires sont des écoles de musique. La preuve en est, c'est qu'à la Révolution, la création du Conservatoire de musique de Paris, le Conservatoire national, elle est faite au départ par des musiciens militaires. Parce que le chef de musique, après, quand il prend sa retraite, il part dans son village, dans sa ville de province, et qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, toi, t'es chef de... Ah, t'es bon, toi, bah, tu vas créer une école de musique. Le maire, il met un peu d'argent, et puis on crée une école de musique, on va former des musiciens, parce qu'après, on pourra avoir un orchestre, une harmonie municipale. Et là, c'est parti.
Donc, ce sont souvent des anciens militaires
ça,
qui font office de chef d'harmonie municipale.
C'est ça. En 1900, vous avez 400 orchestres militaires, et vous avez 7000 harmonies orchestres civils. Alors qu'en 1840, il y a 400 orchestres militaires, mais quasiment pas d'harmonie civile. Donc on voit bien l'énorme développement que ça a pris. Et ça, c'est le travail, en grande partie, des chefs de musique militaire.
On est dans le 7e arrondissement à Paris. Ce que vous venez d'entendre, c'est le RER. Et en face de nous, il y a les vedettes, la Seine... Et puis la tour Eiffel d'un côté et le Trocadéro de l'autre. Et au loin, on entend des trompes de chasse, ce qui est assez incongru. Il est 20h, on est un lundi soir. On va s'approcher pour essayer de rencontrer les jeunes veneurs et sonneurs de trompes. On est juste en dessous du pont d'Iéna et on est avec
Antoine
et Pierre-Jean.
On est les responsables des sonneurs du pont d'Iéna.
Comment s'est né ce collectif de sonneurs? C'est une vieille histoire?
Alors oui, c'est une très vieille histoire parce qu'elle commence à peu près en 1832 au moment de l'interdiction du carnaval de Paris. Et dans la foulée, il y a une interdiction de sonner de la trompe de chasse dans les rues de Paris. Et donc en fait, les sonneurs de trompe de chasse vont se mettre sous les ponts pour, de façon tolérée, continuer de sonner.
Ça fait longtemps que vous sonnez, vous, Pierre-Jean?
Alors moi, j'ai commencé quand mes parents m'ont offert une trompe aux alentours de 13-14 ans, ouais. Et je pratique cet instrument assez régulièrement, notamment tous les samedis à la chasse. Et depuis 2-3 ans, maintenant, tous les lundis soirs, sous le pont d'Iéna, avec une bonne bande d'amis, on est entre 10 et parfois 25, 30, 40, même les grands soirs. Donc ça permet de s'entraîner, de retrouver des amis, de se raconter la chasse du samedi et évidemment de faire perdurer un peu la trompe de chasse à travers le temps.
Et dans votre cas, elle est née comment cette passion, Antoine?
En fait, une fois j'ai entendu de la trompe de chasse, j'ai trouvé ça magnifique et là je me suis mis à en écouter jusqu'au moment où, étudiant, je me suis dit « Ah tiens, on va essayer de s'y mettre ». Et je suis venu ici sans connaître personne. J'ai été accueilli assez rapidement et au fur et à mesure, en fait, j'avais à la fois une bande d'amis, un objectif de progresser dans quelque chose qui me plaisait vraiment, au moins auditivement. J'adorais le son de la trompe de chasse et donc bah, ça fait 8 ans que je suis là, tous les lundis soirs. Quand on commence à s'entraîner, on va commencer à s'entraîner en radouci pour éviter de s'abîmer les lèvres dès le début.
C'est ce qu'on entend là ?
C'est ce qu'on entend là.
En fait, et les notes que vous obtenez, vous chantez d'une certaine manière? Comment vous obtenez ces variations de son?
Alors c'est vrai que la trompe de chasse n'a pas de piston. Il faut imaginer vraiment un long tube avec un pavillon au bout. On n'a pas de piston, on n'a rien. Donc en fait, ça se fait sur une modulation de la vitesse et de la pression d'air qu'on va mettre dans la trompe de chasse. Donc en fait, tout se passe avec notre corps, avec ce qu'on appelle la colonne d'air qui commence au niveau des lèvres et qui va finir quasiment au niveau du périnée, et qui va engager toute la ceinture abdominale. Et donc on va l'engager plus ou moins pour envoyer plus ou moins d'air, pour être plus ou moins rapide. Et puis on va retenir peut-être un peu plus les lèvres, un peu moins les lèvres, pour changer le son. On ne joue pas du corps de chasse, on sonne de la trompe de chasse, parce que le métal a une vibration comme une cloche. Donc quand on sonne, on va justement envoyer une pression d'air telle que ça va faire vibrer le métal. Donc c'est pour ça qu'on parle de sonner de la trompe de chasse et pas jouer de la trompe de chasse.
C'est marrant parce que ça peut paraître une pratique un peu désuète comme ça, enfin, c'est d'un autre siècle.
Il y a eu la chasse avec la trompe de chasse pendant des années et petit à petit on a un certain nombre de musiciens qui se sont mis à faire de la trompe de chasse mais plus pour vraiment l'art musical.
Donc ici, qui ne chassent pas forcément, c'est ça ?
Et qui ne chassent pas forcément du tout. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui le font uniquement par plaisir de la musique en elle-même. Il peut y avoir des personnes qui vont s'entraîner pour la compétition de samedi prochain, ou celui qui va vouloir améliorer son niveau pour la chasse à cours, ou comme moi par exemple, qui ai juste envie de sonner pour le plaisir d'une chasse à tir ou un petit concert avec des amis. C'est très hétéroclite comme population sous le pont d'Iéna.
Thank you.
la moyenne d'âge là, dans votre groupe?
Alors j'ai pas fait la statistique, mais je pense qu'on est autour de 24-25 ans.
J'ai aperçu un monsieur qui doit peut-être être un des doyens de la bande.
Effectivement, on a Jacques Charles qui est peut-être le doyen. Pas sûr avec Samuel.
Alors moi, je suis le doyen, père de sonneur. J'ai commencé en 75. Et ce que vous venez d'entendre, il y avait une trompe qui appelait et une trompe qui répondait. C'était un arrangement sur un opéra de Rossini qui s'appelle Guillaume Tell. Donc la trompe de chasse n'est pas qu'un instrument de chasse, mais c'est aussi un instrument classique. Lully a composé le Menuet de la Reine. Il y a des tas de pièces qui n'ont rien à voir avec la chasse, qui ont été composées par Mozart l'Ancien, par des grands compositeurs.
Vous êtes chasseur, Jacques Charles ?
Alors non, enfin, je l'ai été, mais je ne le suis plus depuis longtemps. Mais j'ai continué la trompe en tant que musicien.
Et vous êtes tombé dans le bain comment ?
Alors moi, je suis tombé dans le bain parce qu'un jour, quand j'étais enfant, je suis allé avec mes parents à une messe de trompe de chasse, et ça m'a enthousiasmé. Et du coup, on a retrouvé une vieille trompe quelque part dans un grenier. Je l'ai fait réparer. Alors évidemment, elle a quand même les stigmates de l'âge. Vous voyez, elle a à peu près 8 ou 9 rustines. Et j'ai commencé comme ça.
Visiblement, vous avez transmis le virus à votre fiston. Là.
Oui, il y en a au moins un qui a mordu, oui. C'est très bien.
Moi, ça fait 23 ans que je sonne.
Et vous avez quel âge ?
J'ai 29 ans. J'ai appris avec mon père et c'est la trompe de mon grand-père.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous ?
Au début, la motivation du père, qui m'a poussé pendant des années. On écoutait dans la Volvo pendant des années et des années. Et puis ensuite, le groupe de copains, puisqu'en fait, ce qui est très sympa, c'est qu'il n'y a pas tant de sonneurs que ça, donc c'est très intergénérationnel. Et du coup, les copains de trompe de papa sont mes copains aussi. Quelques-uns savent lire les notes, mais la plupart, on ne sait pas lire les notes. On apprend à l'oreille, et du coup, on se construit sa musique à l'oreille.
En fait, on peut commencer à sonner de la trompe quand on a quatre dents du haut devant et quatre dents du bas. Pas les dents de lait, parce qu'elles tombent, mais les 8 dents définitives. On peut commencer et faire commencer les enfants sans aucun danger.
Quand on pense chasse à cour, on se dit tout de suite aristo, noblesse, etc. Est-ce que vous êtes tous des fils d'anciens nobles ou...
Historiquement, effectivement, c'était quelque chose qui était réservé aux nobles. Mais en fait, aujourd'hui, c'est très diversifié, extrêmement diversifié. Il y a des gens qui sont en train de faire leurs études et donc qui sont à Paris. Il y a des agriculteurs, fils d'agriculteurs. Moi, je suis commercial. Mon papa, il était aussi commercial dans une boîte de textile enduit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Vous avez tous des noms à particules ou pas ?
Non. Je pense que la grande majorité n'en a pas.
C'est quoi la fonction de la trompe, la chasse à cour ou la chasse à tir ou...
Alors, la chasse à cour, la fonction de la trompe, c'est de un peu raconter les péripéties. Je vais prendre un exemple. Si l'animal chassé, par exemple le lièvre, sort de l'enceinte, le chasseur qui aperçoit le lièvre sortir va prendre sa trompe, sonner la vue, pour permettre aux autres chasseurs d'être au courant que le lièvre est sorti et de pouvoir suivre en fait la chasse. Il y a aussi une autre fonction, les chiens comprennent les fanfares, on peut sonner des appels, avec un air différent de la vue, pour appeler les chiens, les encourager. Il y a très nombreuses fanfares qu'on appelle les fanfares de circonstance. Une fanfare est écrite pour chaque circonstance de la chasse. Si l'animal sort de la forêt, re-rentre, traverse l'eau, etc., il y a une fanfare qui est écrite par circonstance.
Dans le cas de la chasse à tir, c'est totalement cosmétique. Ça ne sert qu'à animer les fins de chasse quand on va s'occuper du gibier, quand on va faire le tableau de chasse. Ça ne sert absolument qu'à ça. Mais ça plaît énormément d'avoir, pour une fois, un côté musical dans cette chasse à tir qui, disons-le franchement, est plutôt animé des coups de feu à longueur de journée. D'un coup, on se retrouve avec un petit côté musical un peu plus apaisant. C'est souvent agréable et il m'arrive souvent d'être invité simplement pour aller chasser et sonner 2-3 fanfares comme ça à la fin.
Vous avez dit sonner 2-3 fanfares. Fanfares, c'est quoi ? C'est des tout petits morceaux ?
Ah, les fanfares. Ah oui, alors les fanfares, c'est un morceau de trompe de chasse. On ne joue pas des morceaux, on sonne des fanfares de chasse.
The Horn of Gondor. Boromir.
Donc là, on se trouve devant un olifant.
Guillaume Le Quester.
Qui est une des plus belles pièces du musée de l'armée. Qui est une forme de corps, donc qu'on appelle plus particulièrement olifant, avec deux orthographes admises, P-H-A-N-T ou F-A-N-T, parce qu'il est constitué en ivoire d'éléphant. Ce qui montre que c'est une pièce de prestige qui est réalisée pour les plus hauts dignitaires et qui est souvent sculptée en Afrique. Celle-ci, elle a été sculptée entre 1175 et 1200, vraisemblablement en Italie du Sud. Ce qui est intéressant dans l'histoire de l'olifant, c'est que c'est un des ancêtres des instruments d'ordonnance, que Roland de Roncevaux en 1080 utilise déjà l'olifant, que Boromir aussi dans Le Seigneur des Anneaux utilise l'olifant, et que donc c'est un instrument qui joue une seule et unique note, qui n'a pas possibilité de jouer une mélodie, mais qui peut servir à la chasse ou à la guerre. Et celui-ci, du fait des scènes représentées, des chiens qui poursuivent un loup, un griffon, on voit bien que c'est un olifant qui était destiné à la chasse.
L'origine des sonneurs de trompe, ça remonte à quand ?
Aussi loin qu'on peut imaginer des corps naturels avec des bois de vache en soi. On faisait juste une note à l'époque. Après, la trompe, comme celle qu'on a, une Orléans, elle date, de mémoire, elle date du 18e siècle. Les
honneurs. J'ai remarqué que vous étiez la seule femme dans cette assemblée très masculine.
Aujourd'hui, oui, je m'appelle Clotilde. Aujourd'hui, oui, mais on a souvent d'autres femmes qui viennent sonner avec nous au gré de leur disponibilité.
Et comment vous y avez pris goût, vous ?
Eh bien, écoutez, j'entendais des trompes chez mes grands-parents à Vendôme quand j'étais petite dans la ville. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé l'instrument. Et un jour, j'ai rencontré des sonneurs. Ils m'ont dit de venir les écouter ici. Je les ai écoutés pendant 2 ans. Et puis, je me suis lancée. Et ça fait 3 ans et demi que je sonne maintenant. Pas vraiment correctement comme je l'aimerais, mais je pense que... si, ça va, dit-il.
Antoine, il faut combien de temps pour sonner juste ?
Pour sonner juste, en sonnant une fois par semaine ici, en un an, normalement, ça devrait aller. Largement.
Vous voulez tester un petit peu ?
Bah, pourquoi pas ?
L'idée pour faire du son, c'est que vous faites comme avec la maîtresse quand vous étiez en primaire, et vous faites un prout avec la bouche. Non, les lèvres dans l'embouchure. Voilà.
Mais j'ai quand même réussi à sortir un son.
Ben oui, tout à fait, bravo. Et plus vous serrez les lèvres, plus ce sera aigu.
J'ai toujours été doué pour les proutes. Voilà. J'arrête là, merci.
Ben non, mais avec plaisir.
Je suis essoufflé.
C'était Sonner Trompette, un documentaire de Jérôme Sandlars, réalisé par Benjamin Hu. Avec le commandant Frédéric Foulquier, chef de la musique de la garde républicaine, Guillaume Lequester, conservateur du patrimoine au musée de l'armée des Invalides à Paris, Thierry Bouzard, historien des musiques et chants militaires, Philippe Gimplovitch, musicologue et historien de la musique, le lieutenant Laurent Sauret, trompette-major de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine, et enfin, Pierre-Jean, Antoine et tous les membres des sonneurs du Pont d'Iéna à Paris. Avec des textes lus par Jacques Bonafé. Prise de son, Sandrine Malon, Frédéric Quérou et Éric Boisset. Mixage, Manon Houssin. Attaché de production, Anaïs Morales et Marie-Yvonne Aboulivier. Coordination, Emmanuel Laurentin. Documentation, Annie Signoret. Recherche INA, Sylvia Monduc. Et un grand merci à Fanny Leroy.